Les quatre saisons d'Émile et Marcel de Jean-Luc Petit-Renaud. Le printemps. Marcel est morte le 15 octobre 2015. Le matin même, chez elle, la vie commençait à faire ses bagages. L'ambulancier venu la chercher fut stupéfait de la voir debout, droite dans ses chaussures. Marcel ne voulait pas offrir aux voisins l'image d'une femme allongée. Gaillarde, elle a rejoint l'hôpital. Le soir, après le potage, après la dernière visite de sa famille, sa voix n'était plus la même. Les mots de la mort jouaient à cache-cache dans sa bouche. Elle eut le temps de troquer ses vêtements de ménagère, ceux de tous les jours, pour une tenue du dimanche. L'honneur se cache parfois sous le talon de l'escarpin verni. Au petit jour, la faucheuse avait mis à mal son champ de trèfle. La veilleuse ne brûlait plus. Au cimetière, le jour de son enterrement, Émile, son mari, errait dans son chagrin trop grand. Assis sur une chaise devant le caveau ouvert, dans un silence proche de l'apnée, il eut cette dernière phrase pour elle. À tout à l'heure, j'arrive, je n'en ai pas pour longtemps. Un peu comme s'il était parti comme chaque matin acheter le pain. Marcel est une fille de la ville. Elle est née en 1923. Deux grandes sœurs et un petit frère activent les braises de cette famille décomposée. Le papa préfère la compagnie du zinc à celle du boulot. Très vite, il abandonne sa couvée pour jouer la casquette de travers aux petites frappes du quartier. Marie, la maman, reste seule pour éplucher, rôtir, nourrir. Les petits se serrent les coudes pour s'imaginer une vie comme celle des autres. Les grandes études seront pour demain, ou ne seront pas du tout. Sur l'unique photo que possède Marcel, on devine une maman qui passe ses jours et ses nuits à retenir ses larmes. Les mains croisées sur les genoux, le sourire, la légèreté ne sont pas au rendez-vous. Employé à la gare, le papa accroche et décroche les wagons en transit. La cruche de vin rosé et grelet est à la fois sa potion et son poison. En fin de journée, le jeu de cartes complète sa vie oisive. Puis, un jour, il est nommé chef de gare dans un petit village où les trains prennent à peine le temps de souffler la fumée noire des villes. Sans badel, 1 minute d'arrêt. Au-dessus du quai, depuis sa chambre, Marcel rêve à la vue d'un cousin lointain qui vient aérer ses bagages au pied des sapins. Le voyageur recoule son histoire parisienne à ceux qui sont restés à la campagne. Ce va-et-vient des souvenirs aiguise les pensées de Marcel. Aller à la capitale, choisir une autre vie ailleurs, là-bas. Ce qui fait office de buffet de gare est le rendez-vous obligé des voyageurs qui empruntent l'autobus pour les villages alentours. En attendant l'heure du départ du vieux Sorère, Raymond, le chauffeur, fait le plein de rosés frais. L'alcooteste est loin de ses préoccupations et de celles des gendarmes. Pendant ce temps, les dames enchapeautées de Paris prennent place à bord du vieux diesel. Raymond, vêtu de sa blouse bleue, indique désintéressé les places restées libres à bord de son embarcation. « Où me mets-je ? Où me mets-je ? » questionne l'une d'elles. Elle répète sa question à l'oreille du chauffeur grognon qui lui répond spontanément. « Mèche-toi là, et nous fais plus chier !» Marcel ne va pas rester oisive longtemps. On ne nourrit pas une bouche à ne rien faire. La télé, les consoles de jeux ne sont pas encore passées par Saint-Badel. Elle va donc donner un coup de main à la ferme voisine. En période de moisson, le boulot ne manque pas. Les vaches vont et viennent à leur envie. Il faut leur limiter leur terrain de jeu. C'est le rôle de Marcel. Assise sous un sapin, elle lance son chien pour jouer les gardiens, pour faire respecter le cadastre. C'est là qu'auprès de l'une de ses sœurs, elle apprend à tricoter. Les aiguilles voltigent au gré des conversations. La laine rouge épouse la laine verte. Le motif jacquard prend tournure et se rapproche de celui du journal féminin. L'aiguille à tricoter bat la mesure au rythme de la baguette du chef d'orchestre pendant que les belles laitières choisissent les meilleures herbes parfumées qui donneront à leur beurre son parfum délicieux. Marcel guide son troupeau fier de servir. Parfois, en fin de journée, elle rejoint la cuisine de la ferme pour rouler une omelette géante fourrée comme une crêpe de gelée de groseille. Ce sucré salé, ce chaud froid empaqueté dans un torchon propre comme un sou neuf, sera déposé au pied d'un arbre dans le champ moissonné. Ce plat délicat, élégant, féminin, est réservé aux hommes qui lient les gerbes de blé avant le battage des jours prochains. C'est un encas, un calfin, avant le vrai souper du soir, partagé après la traite des vaches. Le chef de gare revient à la case départ. Retour sur la ville, place de la Rodade, à Clermont-Ferrand. Puis le papa de Marcel s'installe dans un village auvergnat avec une autre femme. Il faut encore réorganiser cette famille qui ne fonctionne qu'avec une soupape, que sur une patte, comme dirait le garagiste à propos d'une voiture. 2 mars 1923. Ce printemps d'entre-deux-guerres accueille un nouvel élu dans le petit village de l'Allier à Couleuvre, Émile. Émile est le cadet de 3 enfants. Pierre, l'aîné, est apprenti menuisier. Il a des mains habiles, précises. Marcel est le 3e. Il travaille là où on a besoin de lui, dans les champs et plus tard à l'usine locale, dans la forêt de Troncet, où l'on fabrique tout ce que l'on peut tirer de l'abattage des célèbres futaies. En plantant des milliers et des milliers de chênes, Colbert allait donner du travail à des générations et des générations. Joseph, le papa d'Émile, est ouvrier dans une grande scierie locale. Louise, la maman, travaille pour les bourgeois le matin, lorsque les enfants partent pour rattraper leurs études. Elle charge sa brouette de baquets de drap et d'habits bien cousus, taillés sur mesure. Elle rejoint le lavoir communal avec son battoir planté comme un drapeau sur son ouvrage. Chaque jour, à la même heure, sous la glycine qui donne de la gaieté à cet atelier féminin, elle retrouve Rosalie venue à bicyclette. Bavarde comme une pie, sa bouche ressemble à un clavier de piano. Une dent sur deux fonctionne encore, une noire et une blanche, une bouche en désordre, asymétrique, pour une conversation décousue. À son retour, avant l'heure du déjeuner, elle passe chez le boulanger pour acheter 2 pâtisseries, une pour elle et encore une pour elle, car son pauvre mari ne doit pas manger de sucre. Parfois, l'histoire arrange bien l'histoire. Rosalie, la gourmande au bec sucré, partage la même partie du lavoir avec Césarine qui rit de tout. Son chat, son chien, son âne qui patiente, le museau posé sur le muret comme un nénuphar à la surface de l'eau. Son mari aussi est le sujet de ses sarcasmes quotidiens. Louise, la maman d'Émile, trouve qu'elle parle trop. On en sait trop sur elle, c'est impudique. Là, il y a aussi Adèle. Adèle est la reine du fromage de chèvre qu'elle négocie au lavoir. Pas de monnaie qui circule, mais du troc. Nénette, de la ferme d'à côté, propose son beurre fraîchement baratté. Chaque face oblongue du beurre crémeux est protégée par une feuille d'arbuste cueillie dans la haie qui borde la propriété. Cet arbre est appelé d'ailleurs arbre à beurre. Pour qu'il garde sa forme et sa fraîcheur, Nénette le transporte dans un seau rempli d'eau du puits. Joseph, le papa d'Émile, ne vit plus en famille. Il a gardé la maison familiale, là où le bonheur n'a pas voulu rester. Sa maison est aux petits étangs, près de celle du garde-barrière. Louise est à la sortie du village, à Rosières, à un hameau de 3 bâtisses. Nous sommes dans les années 1930. Louise ne vit plus avec Joseph. Marie, la maman de Marcel, vit seule aussi aux portes de Clermont-Ferrand. Ces femmes, déterminées, n'ont pas attendu les fameux événements de 68 pour revendiquer leur indépendance. La seule différence est l'absence des mots. Le sitting de la pensée est encore dans la boîte à mystère de M. Sigmund Freud. L'impossibilité à vivre ensemble est quand même omniprésente. Le silence embrume la pensée. C'est comme ça, et pas autrement. Cette difficulté de vivre à deux ne fait pas partie de la conversation entre Nénette, Rosalie, Césarine et autres bavardes agenouillées au bord de leur lavoir à l'eau bleutée. Ici, la réalité a croqué le rêve. Elle n'en a fait qu'une bouchée. La réalité est une gifle cinglante. Il faut avancer son pion sur le jeu de dames sans se retourner.